écolos en cavalcade.
Bonjour tout le monde, bienvenue dans l'émission Les écolos en cavalcade sur Radio Calade 100.9 FM, une émission inspirée par le mouvement citoyen Bleu, Blanc, Zèbre. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler d'écologie et de psychologie. Vaste sujet. Pour cette émission, nous recevons une invitée, une amie aussi, mademoiselle Claire Lejeune, qui est étudiante en philosophie et militante écologiste. Ça tombe très bien. Bonjour Claire.
Bonjour. Bonjour tout le monde.
Alors... pour cette émission, je vais vous parler d'un article, en fait, d'une rubrique. J'ai trouvé cette information sur Good Planet Magazine. C'est très récent, ça date du 19 avril. C'est le psychiatre Dirk De Watcher. Donc voilà, c'est un psychiatre, psychothérapeute, chef de service de thérapie systémique et familiale au centre psychiatrique universitaire de l'Université catholique de Louvain en Belgique. Donc monsieur Dirk De Watcher, il a écrit un livre, il a sorti une thèse qu'il a ensuite publiée, qui s'appelle « L'art d'être malheureux, deux points, une vie écologique ne rend pas malheureux ». Voilà, donc ce psychiatre... Il explique qu'on peut avoir une vie sobre, dénuée de surconsommation, recentrée sur le vivre ensemble, sur l'amour de l'autre. Voilà un petit peu sa thérapie à lui qui reçoit des familles, qui reçoit des personnes en détresse, qui se posent des questions sur peut-être parfois un sentiment de culpabilité ou un sentiment de pas faire assez ou je ne sais pas trop. Il fait le lien entre la psychologie humaine et l'environnement. Il explique un petit peu que pour se délivrer, il faut se délivrer des obsessions de la poursuite du bonheur absolu. Et on le voit aussi au travers des réseaux sociaux qui reflètent une course au bonheur à travers la consommation, la surconsommation. Et puis, il explique en fait que cette psychologie de toujours courir au bonheur absolu à travers la consommation, c'est une psychologie qui est juste impossible parce qu'elle tend vers une vie de non-sens, une impossible adaptation à son environnement. Donc, comme je l'ai expliqué, sentiment de culpabilité. La solution, c'est peut-être d'accepter cette culpabilité, finalement, d'accepter cette évolution, d'accepter ce changement et de trouver le bonheur dans son petit jardin plutôt qu'aller à l'autre bout du monde, de toujours chercher à dépenser plus, à faire mieux que son voisin. Eh ben, on peut aussi rester dans son jardin et justement chercher à créer du lien avec son voisin qu'on connaît pas toujours. Qu'est-ce que tu en penses, Claire ?
Oui, tout à fait. Alors moi, je vais plutôt être en accord total avec les conclusions de cette étude. Et en tant que militante écologiste, je voudrais souligner que récemment, dans l'actualité, notamment politique, médiatique, il y a eu cette tendance à caricaturer le projet de l'écologie politique comme un projet qui serait liberticide et qui, en fait... mettrait des obstacles plutôt à la poursuite du bonheur. Mmh. Et en fait, je pense que réellement, ce genre d'études et puis beaucoup d'autres qui vont un peu dans le même sens pointent plutôt que c'est le système actuel, la philosophie de vie qui va avec le capitalisme et le libéralisme et un mode de vie très consumériste qui est générateur de beaucoup de mal-être. Et que justement, en fait, un projet de société écologiste, c'est justement l'ouverture vers une émancipation d'un autre genre, plus collective, et du coup des formes de bonheur peut-être plus sereines, moins justement qui se basent moins sur l'accumulation matérielle et davantage sur le lien, la coopération, les rapports humains et toute la richesse que ces choses-là peuvent contenir, et également avec la recherche, et tu le soulignais, d'une adéquation avec son environnement. Et y a aussi beaucoup d'études qui montrent à quel point, en fait, le contact régulier quotidien avec un environnement naturel, donc avec un parc, une forêt, ça a des effets de manière, enfin, bénéfique de manière extrêmement significative sur l'état psychique des sujets. Et c'est pas juste on va se balader, ça fait du bien. C'est réellement prouvé scientifiquement qu'en fait, vivre dans un environnement pollué, exclusivement minéral, où il y a des sources de stress incessantes, où également notre attention est sans cesse happée. Oui. C'est-à-dire, on prend le métro à Paris, en fait, il n'y a pas un moment où notre champ de vision n'est pas accaparé par des signaux, que ce soit des publicités, les éclairages, des tableaux ou autres avec des informations. Il n'y a pas un moment où en fait on a une forme de calme en fait, et tout ça, cet environnement extrêmement je dirais dense en fait d'informations, ça crée un effet assez dévastateur sur l'état psychique à long terme. Mmh. Et on en voit les résultats. Enfin, je veux dire, on est une société assez paradoxale où, en fait, on se sent obligé d'afficher de manière incessante, et notamment, tu parlais des réseaux sociaux, c'est un peu le cas, obligé d'afficher de manière incessante les signes du bonheur, les signes de la réussite, souvent qui sont des signes matériels, en plus.
Exactement.
Mais où, en fait, il y a une espèce de mal-être qui, en plus, est une espèce de tabou aussi, dont on ne parle pas ou peu. On en parle quand même plus, je trouve, depuis le début de la pandémie, parce que ça a eu un effet amplificateur et révélateur, et notamment dans notre génération. Mais voilà, et du coup, on est une société un peu schizophrène, où, en fait, en surface, il y a tous les signaux du bien-être matériel, etc., etc. Et il y a une espèce d'injonction à être heureux aussi. Et en fait, au fond, il y a une immense forme de mal-être qui est liée. C'est pas une responsabilité individuelle des personnes qui sont mal. C'est une société qui collectivement n'arrive plus à assurer des conditions de vie où on peut vivre de manière apaiser et atteindre ces formes de bonheur qui sont en fait très simples, en fait. Si on regarde ce dont on a besoin pour être au quotidien heureux, c'est extrêmement simple. C'est juste que, en fait, la société telle qu'elle est organisée actuellement met beaucoup de barrières à l'atteinte de cette forme de bonheur très... très, très simple, quoi.
Tu l'as dit, la société actuelle, les réseaux sociaux, il faut montrer la réussite. On associe le bonheur à la réussite. Et la réussite, c'est toujours par des biens matériels. Il faut montrer qu'on a la plus grosse voiture, qu'on part le plus loin. Et c'est vrai que... actuellement, on vit dans une société, donc la réussite, le bonheur, le bien-vivre, le vivre ensemble, ça fait un petit peu carte postale. Je rebondis avec une citation, c'est Schopenhauer, que tu connais sans doute, qui a exprimé « La vie aussi comme un pendule de la souffrance à l'ennui ». Quel lien tu fais avec la vision de l'écologie en 2021 ?
Alors, je pense que ça correspond un peu à la face cachée dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que on est une société où on est sans cesse diverti, c'est-à-dire mm-hmm. qu'on a des sources d'amusement et de divertissement qui sont légion.
Oui.
Mais à côté de ça, en fait, il y a une espèce de morosité et d'ennui sous-jacente, en fait. Et je pense que c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, dans la vie de beaucoup de personnes, il y a des formes de dépression
oui.
qui se manifestent. Parce que il y a une difficulté à trouver le sens profond de tout ça, par-delà juste l'amusement et le divertissement quotidien que nous fournit une société capitaliste et consumériste. La consommation de biens matériels, la consommation de biens, enfin de films, de divertissement n'est pas suffisante à créer un bonheur qui soit plein de sens, qui soit pleinement épanouissant et qui suffisent à construire un sujet équilibré. Du coup, je pense que c'est ainsi que je ferais peut-être le lien. Et du coup, cette, effectivement, au bout d'un moment, ça crée non seulement une forme d'ennui par-delà le divertissement, mais également des formes plus ou moins aiguës de souffrance, en fait.
Tout à fait.
Quand on n'arrive plus à donner au quotidien du sens à ce qu'on fait, à son travail, lorsque... et je pense que la pandémie a renforcé tout ça. Et ça a imposé la question du sens profond de nos existences individuelles et collectives. Et du coup, ça a été le révélateur de plein de choses qui font qu'aujourd'hui, et je pense qu'il y a beaucoup plus de gens qui arrivent à dire que bah non, en fait, ils arrivent plus trop à donner du sens à ce qu'ils font, à ce qu'ils sont. Et du coup, en fait, on parle beaucoup du monde d'après, etc., et de la nécessité de reconstruire nos modèles politiques, nos modèles économiques. Mais plus fondamentalement, en fait, c'est une reconstruction du sens de nos existences collectives, véritablement, parce que on a basculé dans une société qui vraiment atteint à l'absurde. Enfin, le modèle consumériste aujourd'hui qui a besoin de l'innovation constante pour exister, pour nourrir la machine capitaliste, ça mène quand même à des formes de consommation qui juste n'ont plus aucun sens, en fait.
Alors, c'est très intéressant ce que tu expliques là, parce que ça m'amène à... J'ai pris quelques petites notes, hein, et ça m'amène à la question que j'allais te poser ensuite. Tu connais André Comte-Sponville ?
Oui.
Voilà, il travaille à l'hôpital universitaire de Genève, voilà, il explique qu'on désire ce qu'on n'a pas, ce qui amène à la souffrance, et une fois qu'on a qu'on le possède finalement, ben on le désire plus, du coup arrive l'ennui. Pour lui, l'écologie, c'est pas la recherche du bonheur. Donc, il y a plein de pensées qui s'opposent. Et justement, ces bouleversements climatiques qu'on est en train de vivre, hein, parce qu'on n'est plus au moment du constat, on est en plein dedans. Avant, on l'imaginait, on le voyait arriver. Maintenant, si je peux me permettre, on est au creux de la vague. C'est maintenant. Et ça va être de plus en plus fort. Donc, pour André Comte-Sponville, l'écologie, c'est pas la recherche du bonheur. Ça nous pousse à trouver un sens à ce qui se passe. Il s'oppose un petit peu à Pierre Rabhi, qui parle de la terre-mère, de la pachamama, nourricière, maternelle. Mais pour André Sponville, l'écologie, si elle était nourricière, on n'aurait pas besoin d'inventer l'agriculture. Si elle était capable de nous protéger, il n'y aurait pas de science et il n'y aurait pas de progrès non plus. Donc, dans ce que tu dis, voilà, et qui se retrouve un petit peu dans toute cette façon de penser, parce que finalement, ben, pour bien vivre l'écologie, il faut quand même peut-être se recentrer, se poser les bonnes questions. Et il explique attention à pas accabler trop la société, parce que l'écologie, c'est aussi un besoin de progrès, c'est aussi besoin de faire évoluer, c'est aussi un levier pour faire évoluer la science, pour faire évoluer le progrès, la technologie, peut-être même nous remettre en question, et c'est très positif. Voilà, on sait qu'en ce moment, les maires écolos se font taper sur la tête. On oppose souvent l'écologie et le progrès. Qu'est-ce que t'en penses ?
Oui, alors, les polémiques sur les maires écolos sont incessantes, et je trouve qu'elles révèlent assez bien... Bon, elles révèlent surtout que le gouvernement... C'est des pieds et des mains pour trouver des manières de délégitimer ce qui est devenu une force politique concurrente très sérieuse, qui l'inquiète, je pense, par rapport aux perspectives de 2022. Mais en fait, je pense que c'est ce sur quoi ça nous oppose, c'est aussi des conceptions nouvelles de ce que pourrait être la liberté et le bonheur qui interviennent. Et en fait, on peut donner tout simplement l'exemple de la polémique qu'il y a eu autour des rêves d'enfants et de l'aviation au niveau de la mairie de Poitiers et de la maire Léonore Monconduit qui a choisi de ne pas reconduire une subvention à un aéroclub.
Oui.
Et en fait, je pense que ça disait quelque chose d'assez fondamental. qui est qu'aujourd'hui, en fait, dans la société dans laquelle on est, c'est pas vrai de dire que les rêves d'enfants sont tout à fait libres.
Tout à fait.
Les imaginaires de tout le monde, et donc y compris les enfants, qui sont particulièrement poreux en fait à ce qui se passe dans leur environnement, nos rêves, la manière dont on se projette, la manière dont on conçoit ce qu'est le bonheur, la réussite, etc., sont fondamentalement structurés par la publicité, par, par voilà, tout ce que le système économique productif, consumériste nous impose. En fait, on n'est pas libre de on ne désire pas exactement ce qu'on, de manière libre aujourd'hui, parce que justement notre environnement est trop accaparé par ces signaux qui nous incitent à, qui orientent finalement nos rêves et nos désirs. Et du coup, en fait, je pense que l'écologie politique, elle pointe vers une forme de libération, en fait, une forme de libération des imaginaires. Pour justement les soustraire à cette influence du système économique et de l'emprise des grandes firmes et de l'emprise de la publicité. C'est pour ça que je mettrai vraiment en lien cet épisode avec tout le travail que font les militants écologistes autour de l'interdiction de la publicité.
Oui, tout à fait.
Etc. C'est très relié, en fait. Et ça interroge de manière fondamentale la question de la liberté, en fait. Et ça, bon, là, on touche vraiment à des questions philosophico-anthropologiques, mais on a construit la liberté sur un modèle individualiste où, en fait, on considérait qu'il y avait une répartition très claire entre la sphère publique et la sphère privée. Et que en fait la consommation relevait entièrement du privé, et que le privé relevait complètement de la liberté individuelle. Ce dont on s'en rend compte aujourd'hui avec la crise écologique, c'est qu'en fait il y a des comportements de consommation privée qui ont des impacts collectifs, donc qui ont des impacts publics quelque part. Donc l'écologie politique, elle vient brouiller en fait cette lisière très claire. Auparavant, paraissait très clair, justement, entre privé et public. Et elle impose de repenser notre manière d'envisager les choses sur lesquelles on est libre ou pas, et de sortir de cette conception, du coup, très, très individualiste de la liberté, où on considère qu'il y a toute une sphère dans laquelle, en fait, on peut faire ce qu'on veut. En fait, aujourd'hui, c'est pas tout à fait vrai. Aujourd'hui, la liberté, il faut la réfléchir de manière collective. Parce que il y a une interdépendance complète de nos existences entre humains, mais aussi entre la sphère de l'humain et du vivant dans sa globalité. Et du coup, voilà, c'est compliqué parce qu'on est dans un moment où en plus le débat public est extrêmement de très mauvaise qualité, où en fait on n'a pas la possibilité d'avoir des temps où on expose de manière très longue des opinions politiques, alors que en fait la révolution écologique quelque part elle est à cette profondeur là elle touche vraiment à nos anthropologies, à nos imaginaires, à la philosophie sur laquelle se bâtit notre société. Elle touche à nos valeurs, à des choses extrêmement intimes, à l'étoffe même de la société. Et du coup, c'est compliqué de militer politiquement vu la manière dont les médias fonctionnent, etc., pour faire porter ce message-là. Et du coup, c'est très important d'avoir, je pense aussi, des symboles, des figures de l'écologie politique qui incarnent aussi cet autre imaginaire possible, cet autre mode de vie possible. Et du coup, voilà, arriver à nous faire rêver et croire en un autre monde possible. Et que, enfin, à terme, ça, il faut que, en fait, on marque notre adhésion à cet autre monde possible par... moi, je milite dans un parti, donc je crois très fortement qu'en fait, on peut changer les choses via les institutions, et du coup, il faut que il faut qu'on vote pour cet autre monde possible. On n'a pas le choix. Voilà.
Je te suis dans cette pensée et c'est magique parce que je ne sais pas où tu es, mais tu dois être proche d'un jardin d'enfants. Et ça sent le bonheur, ça sent tout le bonheur du monde. Et si on se l'écoutait, ma Claire ?
Tout à fait.
On vous souhaite tout le bonheur du monde.
Oh, dis-moi, tu te souviens de ça ? Je sais, ça fait longtemps déjà. J'avais écrit ces rimes pour toi, libre de faire vos propres choix, de choisir quelle sera cette voie, et où celle-ci vous emmènera, et où celle-ci vous emmènera. Tu n'étais qu'une enfant, qu'alors je portais dans mes bras, mais voilà, ce ne sont plus des mots. On en est vraiment là, je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraîne la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais
tout le bonheur du monde.
J'avoue, j'ai pas vu le temps passer, pas eu le temps de me lasser de ces petits bras qui m'enlaçaient. Je craignais les bombes sur ton chemin, et elles ne sont pas passées loin. Puisse-t-il en être de même demain, même si moi je n'y peux plus rien. Et te voilà jeune femme, seule gardienne de la flamme, ta flamme. T'inquiète pas pour mes larmes, je suis si heureux pour toi. Je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraîne la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais
tout le bonheur du monde.
À ta génération, on laisse en héritage peu de réponses aux questions et un monde bien malade. Mais je lis dans vos regards la force d'une promesse qui laisse vivre l'espoir que porte votre jeunesse. Je te souhaitais tout le bonheur du monde, et aujourd'hui tu fais le mien. Ta mélodie joue loin des ondes, mais j'aime tellement ce qu'elle devient. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Maintenant tu le construis de tes mains, c'est toi qui entraîne la ronde, c'est toi qui choisis le refrain. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur du monde. Je te souhaitais tout le bonheur du monde.
Les écolos en cavalcade.
Continuer, on va terminer l'émission sur une initiative dont je voudrais te parler. C'est Car News, le magazine qui publie le 9 avril 2021. Là aussi, c'est une information qui n'est pas très vieille. Donc, c'est l'ESS qui se développe pendant cette crise qu'on est en train de traverser, qui porte là aussi à revoir sur plein de sujets. Donc, 23 projets d'ESS dans le domaine de la santé pour une transition écologique et solidaire. 23 projets, c'est beaucoup trop. Je ne vais pas avoir le temps de tous les énumérer. Mais ce qu'on sait, c'est qu'en France, il y a 400 mutuelles qui fournissent à leurs adhérents des prestations de santé, de prévoyance, de solidarité, qui travaillent en tout cas à les développer et puis leur apporter une dimension écologique, en plus d'être solidaire, des associations, des fondations qui apportent des réponses innovantes. 2-3 exemples. Dans le domaine de la santé, évidemment, on a la Fondation l'Abbé Pierre qui milite un toit pour tous. C'est hyper important. On a la Sauvegarde 71 et Cèdre Agir qui expérimentent un programme de soutien aux familles et à la parentalité. Là, ça s'adresse aux 12-16 ans. dans ce qui est de l'accès aux soins, on a Alter Soins pour tous. Ça, c'est dans le 44. Alors eux, ils ont expérimenté un espace de soins pluridisciplinaires qui facilite l'accès à des thérapies complémentaires qui sont pas pris en charge, qui sont pas pris en charge par la sécurité sociale, mais validés par l'OMS. Et ça permettra à des personnes précaires, à des personnes qui ont peu de moyens, d'avoir accès à des soins alternatifs, à des thérapies complémentaires qu'elles trouvent pas toujours dans le système de soins. Quand on a la CMU, c'est un parcours classique. Et ben là, voilà, il y a des innovations, il y a des offres nouvelles qui sont proposées. C'est vraiment bien. Et enfin, je vais terminer avec Génération Cobaye, qui fait aussi partie du mouvement Bleu Blanc Zèbre. Donc Génération Cobaye mobilise les 18-35 ans sur les problèmes liés à la pollution, à la santé, en organisant des événements, en interpellant des décideurs politiques. Elle a aussi mis en place une boutique en ligne qui s'appelle la Réjouisserie. C'est une boutique d'alternatives de consommation portée par des entrepreneurs engagés. Claire, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
Eh bien, c'est formidable tout ça. Et tout à l'heure, quand je parlais d'incarnation de cet autre monde possible,
voilà.
En fait, toutes ces initiatives, et elles plantent les graines de cet autre monde. Et c'est peut-être pas extrêmement visible. Ça fait peut-être pas la une, et on n'en parle peut-être pas dans les grandes chaînes d'infos en continu, mais tout ça, c'est une espèce de révolution tranquille et silencieuse qui se fait à bas bruit, mais qui se fait. Et qui est portée beaucoup par les jeunes générations aussi. Via Génération Cobaye, ça a été créé notamment par une militante extraordinaire qui s'appelle Camille Marguin, que j'ai l'immense chance de connaître. Et voilà, c'est une des personnes qui, pour moi, contribue à construire cet autre monde possible.
Mais excellent.
Et énormément d'autres.
Pardon. Oui. Je te laisse finir, pardon.
Non, c'est bon, pas de soucis, j'ai terminé.
Alors, écoute, Claire, c'est comme tu l'as dit, c'est très positif. Peut-être que ce qu'il faudrait, c'est qu'on fasse des statistiques sur les choses qui se font et peut-être un petit peu moins sur les choses qui se défont, finalement. Et puis, écoute, je te remercie, Claire, d'avoir participé à notre émission. Merci pour ton positivisme, ton optimisme, ton réalisme aussi. Et puis pour ces petits bruits de cris d'enfants qu'on a entendus derrière. Très agréable.
Aucun souci. Bon, merci beaucoup à vous également.
Au plaisir, Claire, à très bientôt.
À très vite. Au revoir.
Au revoir. Au revoir à tous les auditeurs. À la prochaine.
Les écolos en cavalcade. Thank you.